17h, 19h, l'Afterworld.
Attitude au cœur de l'édition 2022 du Festival de la Bande Dessinée et nous sommes en studio avec Anaïs Allard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes autrice et scénariste. On trouve assez peu d'infos sur vous, y compris sur les sites de vos éditeurs, mais si mes recherches sont correctes, vous avez travaillé comme professeur de français langue étrangère, également dans le secteur du handicap ainsi que dans la décoration. Et vous êtes aujourd'hui scénariste dans la bande dessinée, notamment sur des sorties récentes comme Abby et Walton et sur la série Sacha et Tom Cruise qui en est actuellement au tome 4. Votre rencontre avec les métiers de la bande dessinée, ça s'est fait comment ?
Ça s'est fait par un projet qui n'est pas encore sorti en fait, mais par une histoire que je voulais raconter au départ en documentaire.
D'accord.
Et je redécouvrais la bande dessinée à ce moment-là. Et du coup, en fait, j'arrivais pas, c'était quelque chose que je me voyais pas faire en documentaire. Et finalement, du coup, j'ai osé l'écrire en bande dessinée, en scénario de bande dessinée. Et c'est signé chez Noctambule. Et voilà, ça sortira sûrement 2023 pour le tome 1. Et
d'accord.
C'est une histoire adulte, enfin c'est sur le métier de bourreau du Moyen-Âge à aujourd'hui. Donc on est loin de la jeunesse.
D'accord, effectivement, donc c'est comme ça, c'est l'idée de départ qui a fait que vous êtes rapproché.
C'est ce
un peu
sujet-là ouais, qui m'a vraiment tenu à cœur et je voulais vraiment me mettre à écrire et j'ai commencé par ça, ouais.
Ah,
et en fait après par là, j'étais passionnée par la bande dessinée et j'ai rencontré Bastien Quignon avec qui on fait Sacha, puis Barbara, Canepa, Clotilde Vue et la bande Delcourt, quoi. Donc, voilà.
D'accord, et toujours en gardant de côté votre premier projet initial qui donc va sortir.
Bah, je suis toujours dessus. Entre les recherches et le temps de dessin et tout, ça a pris beaucoup de temps. Ouais. Le tome 1 est dessiné par Olivier Deloy, qui a fait plusieurs projets, entre autres chez BD Kids, c'est Émile et Margot ou Verlaine chez Jungle. Enfin, il a plusieurs albums. Chez Delcourt, il avait fait aussi. Ça m'échappe là, mais voilà, il a plusieurs albums et on est sur le tome 1 avec lui. Le tome 2, c'est avec Benjamin Bozonnet. Donc, c'est complètement différent, mais ça fait déjà 7 ans qu'on est dessus. Donc,
d'accord.
C'est un projet qui a besoin de mûrir.
Mûrir, d'accord. Alors, avant d'aborder Abby et Walton, dont on a déjà parlé avec votre illustratrice et coloriste Giorgia Casetti, penchons-nous un peu sur la série Sacha et Tom Cruise que vous scénarisez en collaboration avec donc Bastien Quignon au dessin. Sacha, pour ses 10 ans, rêvait d'un rat méga intelligent, mais à la place, sa mère lui a offert un chihuahua qu'il a baptisé Tom Cruise. Et depuis, un phénomène étrange se produit. À chaque fois que Tom Cruise éternue sur un objet ancien, tous deux se retrouvent transportés à travers l'histoire et le temps. Alors, quelles sont les origines du concept et l'histoire de votre collaboration ?
Alors, je commence par la collaboration. Bah, en fait, Anthony Pastor m'avait parlé de Bastien. Donc, j'avais contacté Bastien et on a eu tout de suite un bon feeling. On s'est hyper bien entendu. Et on avait fait un petit album jeunesse qui n'était pas de la bande dessinée. Et Barbara a remarqué le dessin de Bastien. Et il m'a dit, oui, il faut qu'on fasse une bande dessinée. Elle nous demande une bande dessinée. Est-ce que tu auras un projet ? Et avec Bastien, on adore les... Voilà, on rigolait beaucoup en parlant des chiens moches et tout. Et moi, j'aime beaucoup l'histoire. Donc, je me suis dit, un petit garçon qui fait des voyages dans le temps. Et puis, bon, évidemment, fan de retour vers le futur, tout ça. Ça m'a amusé d'avoir un personnage comme ça, assez moche, dans le chien, et un petit garçon, surtout ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un petit garçon prétentieux et pas loin du héros. Voilà, donc il est un peu insupportable. Il est assez sûr de lui, et il est avec ce chien moche, et c'était un peu la honte, et de les faire voyager dans le temps, c'était une excuse pour visiter et voyager dans les époques. Et j'aime bien l'idée aussi qu'on ait fait du passé, comme ça, et de trouver un intérêt de ce qu'on est aujourd'hui à travers les époques, comme ça.
C'est vrai que déjà le concept de l'anti-héros, ça permet déjà plus de liberté, plus d'humour aussi.
Oui, voilà.
Et justement, au-delà du côté science-fiction et voyage dans le temps qui envoie du rêve, du moins vous l'avez vu à un enfant des années 80 que je suis, le principe de Sacha et Tom Cruise, c'est aussi d'éduquer le lectorat avec des petites fiches intitulées Prends-en de la graine et qui contiennent donc des anecdotes historiques et des petites astuces et expériences à faire à la maison.
C'est MacGyver aussi, ça c'est.
Ah oui, l'influence MacGyver évidemment.
MacGyver.
Est-ce que c'est une manière d'incarner un peu le concept d'apprendre en s'amusant ?
Oui, alors là c'était un peu une demande aussi des éditeurs.
D'accord.
Voilà, mais après je trouvais ça drôle d'avoir des anecdotes qui sont assez drôles. En fait, on l'écrit d'une manière assez ludique,
oui.
et c'est souvent sur. En fait, souvent on parle de la grande histoire comme ça, mais on oublie de raconter les détails qui sont très drôles, qui peuvent être drôles. Par exemple, je pense à la cour du roi où il va revendre ses restes. Voilà, ça traduit par des petites anecdotes. Ça traduit mieux parfois une époque et une mentalité qui était très hiérarchisée comme ça. Et donc c'était ça qui m'amusait aussi de le traiter comme ça.
Parce que grâce à Sacha et Tom Cruise, on peut apprendre à fabriquer une petite fusée, on peut apprendre à fabriquer un sablier.
Voilà, c'est ça. J'ai pas encore eu de retour des parents, mais... Des catastrophes.
Du coup, comment se construit la trame ? C'est l'histoire qui amène les anecdotes et les astuces, ou c'est plutôt le contraire ? C'est un mélange des deux ?
C'est un mélange des deux. C'est-à-dire qu'avec Bastien aussi, Bastien, il est très. J'écris le scénario, il est très construit, voilà. Mais Bastien donne beaucoup d'idées aussi. Il a besoin d'avoir une certaine liberté aussi dans l'écriture. Donc il a plein d'idées. Il adore rigoler. Donc avec le chien, il lui fait faire plein de trucs. Lui, parfois, il me fait faire des petites surprises avec le chien. Il me rajoute une petite scène. Et donc c'est à partir de là. Et après, on voit scénaristiquement ce qui est plus pratique pour les objets. Après, parfois, j'ai un truc très précis. Ça dépend comment on fait, mais voilà. Parce que j'ai une trame générale sur tous les tomes quand même. Hein.
D'accord.
J'ai une on aura 7 ou 8 tomes et j'ai la fin du tome. Donc voilà, à partir de là, il faut reconstruire. Il y a plein de puzzles, il faut rebouger les cases.
C'est ça, c'est justement voilà, on va y venir, on pourra approfondir un petit peu ça. Donc dans le tome 4, Sacha, Jade et Tom Cruise sont coincés en Chine en 1650 et ils ont perdu la carte qui leur permettait de rentrer chez eux. Alors Sacha se sert de sa dent de crocodile en pendentif que son père lui avait offerte et seulement voilà, cette dent les mène en Égypte et les trois personnages vont devoir découvrir un moyen de retrouver le père mais surtout de rentrer chez eux, quitte à créer une boucle temporelle. Donc ça demande une certaine discipline scénaristique de gérer la logique des voyages dans le temps.
Oui, voilà, écoutez, je laisserai des vrais pros me dire, parce qu'il y a toujours des contre-sens. Enfin, voilà, à un moment donné, je suis un peu disparaître. Il y a Tom Cruise, le deuxième Tom Cruise qui commence un peu à disparaître, tout ça. Voilà, je fais attention à pas me mettre, il y a des moments, je suis obligée de mettre des petits post-it un peu à droite, à gauche, et de bien vérifier, de parler à voix haute pour être bien sûr que c'est bien logique. Et,
la fameuse logique des paradoxes, effectivement.
Voilà, la logique des paradoxes.
On sait pas trop comment gérer.
Voilà, c'est ça.
C'est totalement hypothétique.
Surtout que je suis pas une vraie lectrice de science-fiction à la base, donc à part voilà, j'ai retrouvé vers le futur, mais après je sais que il y a des grandes. Après j'ai lu toutes les théories, alors il y a différentes théories, c'est assez passionnant de les lire et de les découvrir. Et puis en plus l'album est quand même c'est quand même de la jeunesse, donc faut pas que ça soit trop compliqué non plus à saisir, à comprendre. Et comme Sacha, c'est comme une lecture assez dynamique, il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de rebondissements tout le temps, fallait pas que je perde trop le lecteur non plus.
Oui, que ça part pas trop loin, effectivement.
Ouais.
Et là, d'ailleurs, vous avez opté pour la théorie des lignes temporelles parallèles, ce qui offre voilà, des bonnes possibilités scénaristiques, mais peut aussi, du coup, créer des paradoxes que vous avez gérés avec les disparitions. Donc voilà, ma question à laquelle vous avez déjà en partie répondu, est-ce que depuis le début de l'histoire, vous avez déjà réfléchi à une éventuelle fin, et est-ce que cette fin a déjà évolué au cours de la rédaction de
Tom ? Non, c'est toujours la même fin. J'ai toujours le même. Après, à l'intérieur, il y a des petites choses qui doivent se replacer. Je réalise que là, ça va pas être possible en fait, que là, c'est pas logique. Des petites choses, mais j'ai la fin. Oui, je sais où est le père, moi.
On en voit des petits bouts, mais c'est, pour l'instant, ça reste assez mystérieux. Donc, normalement, il reste encore 7, 3, 4 tomes avant qu'on ait le dénouement.
Voilà.
Affaire à suivre, donc.
Pour rien vous dire.
Effectivement, ça gâche le plaisir. Même si Bastien Quignon n'est pas là, j'ai quand même envie de poser la question de la technique utilisée pour avoir un rendu aussi stylisé et coloré.
Oui.
Est-ce que vous savez quelle technique il utilise ?
En fait, il est tout à l'ordi, à la tablette, sur Photoshop, là, sur cet album. On travaille sur d'autres choses où il est à la main aussi.
D'accord.
En fait, non, c'est pas vrai, sur le dernier album, il a fait le début à la main parce qu'il voulait changer, mais il s'est fait un peu engueuler par les éditeurs pour repasser en ordinateur pour que ça garde une unité, en fait, l'unité de tous les autres albums.
C'est vrai que sur les premières planches, particulièrement, on voit vraiment vraiment ce trait un petit peu organique. On a vraiment l'impression de voir la feuille avec le
Oui, mais c'était grain, en fait. Mais après, du coup, il est revenu. Il a dû revenir à la planche, à la tablette.
Enfin, un peu de conformité.
Voilà. Mais il est très très fort parce qu'il arrive à trouver des traits très doux. Enfin, on a vraiment l'impression que c'est aussi à la main parfois parce qu'il est. Il a toutes les couleurs, il est très fort aussi en tous les fonds, travailler la couleur et les matières.
Dans une autre interview, vous disiez qu'il fallait en moyenne un an pour réaliser un album, mais que la partie graphique durait plus longtemps. Du coup, en tant que scénariste, ça vous permet de vous consacrer à d'autres projets pendant l'avancement du dessin ?
Moi, je suis en tout. Par exemple, je suis sur 6 albums en même temps. J'alterne, évidemment, je peux pas tout faire. Enfin, j'essaie maintenant de. Alors, en fait, au départ, c'est pour en vivre. On est un peu obligé de commencer des projets, et puis voilà. Mais c'est pas très confortable. Donc maintenant, j'essaie d'avancer complètement un scénario, de le finir, le laisser au dessinateur. Mais en fait, moi, je suis beaucoup les. Moi, j'adore travailler. Enfin, je travaille que avec des gens avec qui je m'entends très bien. Donc, les collaborations sont importantes pour moi, d'être dans une intimité, comme ça. Et donc, de passer du temps au découpage et d'aller avec l'autrice ou l'auteur faire le travail de mise en scène et de découpage des planches parce que j'ai une mise en enfin dans mon scénario c'est très précis case 1, case 2, gros plan enfin voilà avec tous les détails la mise en scène mais voilà après c'est important d'aller avec le dessinateur de lui donner aussi de le motiver qu'il soit pas tout seul pendant 8 mois à faire son album sans aucun retour du scénariste ou
oui donc même quand chacun a son rôle au final ça reste quand même
voilà.
De collaboration.
Donc voilà, même si je termine, après je continue en fait à faire des suivis Voilà. En général, on se voit pour faire avancer sur 10 planches, par exemple, de rough, et puis après, l'autre, il commence à avancer, et puis je reviens, on se refait 10 planches. Et...
D'accord, dans tout le long, effectivement, ouais. vous êtes là. Parlons donc d'un deuxième ouvrage que vous avez scénarisé, Abby et Walton.
Oui.
Donc, on change de personnage avec la jeune Abby qui vit avec sa mère dans un hôtel. Elle est espiègle, aventurière, alors qu'elle évolue dans un milieu plutôt strict. Et un jour, en fouillant dans une chambre interdite, elle réveille le fantôme de Walton, un jeune homme plutôt agaçant et collant. Pour Abby, l'urgence va être de se défaire de Walton, quitte à devoir l'aider malgré elle, mais bon, voilà, c'est le seul moyen de s'en débarrasser, c'est une mission qu'elle prend à bras le corps. Donc là, par rapport à Sacha et Tom Cruise, on change d'époque de référence car l'histoire se passe en 1856. Est-ce qu'il y a une raison à cela, ce choix du milieu du 19e siècle?
Voilà, en fait, les scénarios, on les adapte aussi aux dessinateurs, et Georgia, elle est vraiment, j'adore, enfin, elle peut faire toutes les époques, mais il y avait quelque chose de très beau, là, j'aimais bien l'idée de la jeune fille, attendez, je me reprends, il y a la jeune fille, voilà, qui, déjà dans les robes, dans les plissés, dans toute cette époque de tissu, qu'elle dessinait, elle est incroyable parce qu'elle est dans du détail, et donc elle fait ça à merveille. Et en plus, ce qui m'intéressait, c'était comme une fable en fait d'un personnage qui va se défaire au fur et à mesure de cette robe et de ce carcan qui date de cette époque en fait. Voilà, et en fait, elle va traverser toute cette aventure symbolisée par la robe qui se défait au fur et à mesure et de sa chevelure aussi qui se défait et d'accord. qui lui donne une certaine liberté. Et donc, je trouvais que ça marchait bien dans cette époque. Voilà, puis à la base, l'idée c'était de ça s'appelait. Walton, le fantôme dont même la mort ne veut pas. Donc c'était vraiment de faire aussi un truc avec cette époque. J'aimais bien le côté un peu cette époque un peu gothique comme ça, dans des forêts un peu mystérieuses avec cette espèce d'esprit de la mort qui rôdait, et puis les monstres voilà, de la forêt.
Du coup voilà, donc c'était vraiment une volonté particulière de développer la psychologie d'un personnage féminin du 19e, forcément, comme vous l'avez dit, très exposé à des attentes sociales, des injonctions, et lui donner un caractère indépendant, curieux, à contre-courant des normes de l'époque.
Oui, il y avait ça, mais il y a ça. Enfin, ça, c'était la base, voilà. Mais il y a aussi la relation avec sa mère. Elle avait une mère, en fait, qui est coincée aussi dans cette époque, et donc qui est seule encore, et qui est coincée dans des codes moraux. Donc elle est complètement dépressive. Et elle n'arrive pas à s'occuper de son enfant vraiment. Et donc Abby, elle est en colère au départ contre sa mère. Elle n'arrive pas à trouver un lien. Elle s'ennuie. Et dans cette quête-là, le moment où elle s'en sort. D'ailleurs, c'est le moment où elle repense à sa mère, voilà. Et c'est à ce moment-là où elle est nouée par les liens. On voit toutes les lianes. Et elle est complètement enfermée là-dedans, et dans ce lien aussi, mais c'est dans ce lien-là qu'elle trouve aussi une solution et quelque chose pour sortir. Elle s'enfuit, enfin, c'est pour ça que quand elle revient, elle est beaucoup plus libre, il n'y a plus cette robe qui l'étouffe, elle n'a plus cette coupe toute serrée et toute bien coiffée. Et sa mère, au début, elle a une relation violente, et puis finalement, la fille lui en veut plus, en fait, il y a quelque chose de la paix qui est revenue, et sa mère qui est face à cette. Finalement, à ce don aussi de cet enfant qui l'a pardonné, refait un lien avec elle et recrée une confiance en fait, et elles partent toutes les deux sur la plage, alors que depuis le début elle veut pas qu'elle se salisse, elle veut pas qu'elle aille sur la plage parce que c'est dangereux, parce que c'est nénien, parce que voilà.
Et dans l'adversité, dans l'aventure, le lien se reforme. Justement, le fait de basculer au fil de l'histoire dans un style plus surnaturel, on a déjà vu avec votre illustratrice Georgia Casetti que ça lui avait permis de se faire plaisir sur la conception des personnages, et niveau scénaristique, ça offre une certaine liberté de création aussi.
Oui, alors là c'était tellement drôle, enfin ça c'est le plaisir du scénariste, hein. C'est-à-dire que moi je n'ai rien dessiné, donc là de créer un personnage, de dire la mort, mais loin des clichés, voilà, je voulais surtout pas qu'il y ait de faux, pas de squelette, enfin loin de ça, et Georgia, elle est tellement incroyable dans la manière d'inventer les personnages, elle fait ça, mais je sais pas d'où ça lui vient, mais voilà, c'était super drôle d'avoir... de l'avoir créé, la mort avec... en fait c'est un crocodile avec un...
Oui, c'est
avec un singe à l'intérieur.
Qui a essayé de prendre une peau, de se renouveler.
Oui.
Au final, elle-même nous disait qu'elle n'était pas forcément sûre du sens, mais que ça appelait des questions, quoi, de se demander un petit peu le personnage, quoi, son.
Il y a une grande poésie quand même, je trouve, et puis il y a une grande liberté, de se dire que ça peut avoir. Se donner un autre visage, parce qu'en fait, vous avez beau chercher la mort, des représentations de la mort, il y a toujours cette espèce de. Il y a toujours le squelette, la cape noire et la faux. Enfin, c'est très compliqué de trouver autre chose.
Oui.
Et là, il y avait quelque chose de doux. Parce que, enfin, moi, je travaille beaucoup, du coup, toutes mes thématiques tournent souvent autour de la mort, la disparition.
Mmh.
Et en fait, il y a. Et je trouvais ça joli d'avoir quelque chose qui n'est pas effrayant forcément, enfin quelque chose qui de toute façon doit vers quoi on va, et de quelque chose qui peut être un peu amusant aussi, quelque chose d'un peu doux et d'un autre monde un peu comme ça qu'on connaît pas, peut-être très marrant. On sait pas.
Pour vos projets en cours et vos projets futurs, vous avez dit que vous en aviez 6 ou 7.
J'en ai plusieurs, ouais. J'en ai plusieurs. J'ai toujours la suite des bourreaux, là, donc voilà, qui un jour va sortir. J'en suis, faut que j'écrive le tome 3. J'ai un album chez Jungle, Ramdam, une nouvelle collection avec Amélie Clavier pour une histoire d'amour adulte au 19e. Et après, j'ai une série dont je ne peux pas parler encore.
D'accord.
Voilà. Et une autre série avec une autre italienne qui s'appelle Josie Gaviglia, qui va sortir aussi chez Métamorphose.
D'accord. Effectivement, donc vous êtes
l'année prochaine.
Sacrément occupé. Donc du coup, Abby et Walton et d'autres projets, c'est une manière de faire des histoires plus ponctuelles ou ça vous dérange pas vraiment d'avoir aussi plusieurs séries en parallèle?
Alors en fait, au départ, la série c'était aussi quelque chose d'un peu confortable parce que je suis obligée, sinon en tant que scénariste, de monter des projets, trouver quelqu'un, une dessinatrice ou un dessinateur, d'aller le reproposer en projet à un éditeur, le valider. Et ça prend beaucoup de temps et ça fait perdre beaucoup d'énergie aussi quand même tout ce processus. Oui. Et puis surtout, il y a des gens avec qui j'adore travailler. Enfin tous en fait avec qui je travaille là, mais par exemple avec Bastien, voilà, on a une autre série à côté qu'on commence à monter. Enfin, on a envie, j'ai un autre projet adulte avec lui. Voilà, donc l'histoire des séries est quelque chose d'agréable dans le fait d'avoir un personnage, de l'aimer et de le construire. C'est-à-dire qu'au début, de le faire évoluer, c'est fantastique, quoi, de voir. Puis voilà, je vous dis, moi j'ai un personnage en tête et de voir quelqu'un qui va le faire créer, le faire bouger, le faire parler, c'est magique, franchement.
Où est-ce qu'on vous trouve au festival 2022 en dédicace?
Là, on est sur Delcourt, hein, c'est le Delcourt Soleil. Donc voilà, le matin il y a Bastien et l'après-midi Georgia. Ou je sais plus quels sont les horaires exactement, mais on a Georgia et Bastien.
D'accord, donc bon, déjà on sait où on peut le trouver et on peut évidemment trouver ça sur les infos sur le site donc du festival de la BD. Un petit mot avant de conclure, quelqu'un a quelque chose à rajouter?
Ben on aime beaucoup votre t-shirt, on doit dire.
Voilà, mon t-shirt entoure le futur, effectivement, mis pour l'occasion. Les vrais savent.
Moi, Sébastien, si je peux me permettre, j'ai juste une question. Quand on est scénariste comme vous et qu'on a imaginé l'histoire, qu'on a écrit l'histoire et qu'on va transmettre notre histoire à un illustrateur, comment ça se passe? Parce que vous avez déjà dans votre tête, j'imagine, les dessins un petit peu, non?
Oui, alors en fait, j'envoie des photos, j'envoie tout un panneau de ce qu'ils appellent les moonboards, là, avec des ambiances, de décors, des peintures, des photos d'enfants ou des images. Par exemple, pour Sacha, c'était un petit garçon qui était dans l'école.
D'accord, donc en fait, vous donnez un petit peu la trame de vous, comment vous avez imaginé la bande dessinée. D'accord.
Voilà, en fait, j'imagine, moi déjà, c'est assez décrit, mais juste sur l'ambiance, pour donner quel type de dessin. Déjà, en général, on a contacté un dessinateur ou une dessinatrice. Donc, on lui montre les dessins, les directions qu'on voulait. Après, on parle avec la personne pour voir si cette personne, à quel moment où elle en est dans son dessin, vers quoi elle veut aller, du traditionnel ou pas. On essaie des choses, voir ce qui marche le mieux. Et voilà. Mais il y a toujours une forme de deuil quand même. C'est-à-dire, il y a toujours un moment donné, on imagine quelque chose d'assez précis. Et c'est pas ça qu'on va avoir, en fait. Mais c'est presque comme avoir un enfant.
On le partage.
Oui, on le partage. Mais c'est surtout qu'il n'est pas forcément comme on a imaginé. Donc, c'est un deuil, mais c'est pas triste. C'est au contraire, c'est plein de surprises et de joie et de rigolade.
Il est parfait, on va pouvoir vérifier ça donc directement avec les tomes 4 de Sacha et Tom Cruise, Cambriolage sur le Nil, paru aux éditions Soleil, ainsi que Abby et Walton, paru en septembre dernier chez Delcourt. Anaïs Allard, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci au festival.
Oui, merci vous aussi.